une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci de votre fidélité. Un grand reporter, un écrivain, un voyageur va nous accompagner cette semaine. Il s'agit de Jean-Paul Marie qui nous propose un nouveau livre entre passé et présent, entre mythe et réalité, entre histoire et actualité. Il s'intitule « En dérivant avec Ulysse ». Il est publié chez Jean-Claude Lattès. Bonjour Jean-Paul Marie.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à ce micro. Vous venez donc de publier ce voyage en Méditerranée qui est votre mer fétiche.
Ah oui.
C'est Mare Nostrum, plus que jamais pour vous.
Oui. C'est ma mer pleine de grâce, c'est ma mer physique, spirituelle, c'est ma mer.
Alors vous avez sillonné le monde des conflits, en l'occurrence pour plusieurs médias, enfin pour l'Obs par exemple. Vous avez l'expérience de la Méditerranée et de ces conflits, Beyrouth aussi, la guerre du Liban également, ça ne nous rajeunit pas, Jean-Paul. Et vous avez eu envie donc avec ce livre de mêler l'actualité et l'histoire et les mythes.
Oui, parce que il y a une dizaine d'années, j'avais fait déjà ce voyage, d'ailleurs le voyage d'Ulysse, toutes les étapes, pour un hebdo, pour l'Obs, pour une série d'été. Et puis, en faisant ce voyage-là, je me suis aperçu de ce que cela ouvrait, quoi. Et alors, bien sûr, un article, c'est un article, enfin, ou même une série d'articles. Et donc, pendant des années, j'ai eu envie de refaire ce voyage, mais de le refaire en prenant mon temps, et en parlant du temps aussi, c'est-à-dire de celui d'Ulysse, d'Homère et celui d'aujourd'hui. Et j'avais envie de faire dialoguer le corpus homérique avec la réalité d'aujourd'hui, la réalité de la Méditerranée, pour essayer de comprendre ce qu'est cette Méditerranée qui n'est pas très bien définie, finalement. Hein, quand on a voulu
sa Méditerranée, finalement.
Oui, absolument. Et quand on a voulu faire une organisation politique autour de la Méditerranée, c'était un grand fracas.
L'union de la Méditerranée.
L'union pour la Méditerranée, ouais. Oui. Et donc, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur elle, sur nous, les Méditerranéens, et un peu plus aussi sur moi, parce que quand on fait une enquête, on est toujours en quête. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et
parce que vous êtes fils de la Méditerranée aussi.
Oui, exactement. Mais j'avais envie de comprendre justement ce qu'elle nous dit et qu'on n'entend pas toujours.
Ouais. Alors il y a un dossier de l'actualité qui vous a rapproché, enfin qui vous a fait retourner en Méditerranée, ce sont les migrants.
Alors, les migrants, c'est
parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux migrants oui. Quand on parle de Méditerranée maintenant.
Voilà, ça c'est le fait nouveau. C'est-à-dire que les migrants, ça a été un choc sur différents niveaux, mais surtout, ça a donné à la Méditerranée une couleur qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que la Méditerranée, pour la plupart des gens, c'est les vacances, le loisir, la Grèce, l'Italie, la lumière, la chaleur, les vacances, quoi. Et tout d'un coup, cette Méditerranée est devenue dure, obscure, criminelle. Et au fond de l'eau, au lieu de parler des amphores ou des beaux poissons, on a vu un cimetière collectif, quoi.
Vous avez suivi beaucoup de ces migrants, oui. Hein, vous avez fait beaucoup de reportages sur la question.
Oui. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai participé à la première mission de l'Aquarius, parce que ça m'intéressait de voir sur l'eau exactement ce qui se passait. On a découvert une Méditerranée qu'on connaissait pas avec, et ça c'était aussi un élément nouveau, une nouvelle frontière qui ne passait pas par la terre, mais qui passe par la mer, qui est à une cinquantaine de milles des côtes africaines, mais qui est une frontière extrêmement solide, physique, concrète, et qui tue bien plus que le mur de Berlin l'a fait en 40 ans, quoi. Donc j'avais envie de voir ça, et c'est ce contraste extrêmement fort entre une Méditerranée de l'obscur, une Méditerranée dure, comme ça, il y a des tempêtes en Méditerranée, ça peut être terrible, une Méditerranée un peu cruelle, et cette Méditerranée des Grecs, de la lumière, du bleu, que j'avais envie d'analyser.
Alors les migrants au cœur de l'actualité, Jean-Paul Marie, plus que jamais, migrants pas vraiment bienvenus en Europe, vous le savez, surtout pas en Hongrie notamment. Le Parlement européen a dénoncé mercredi la menace systémique, je le cite, pesant sur les valeurs de l'Union européenne dans le pays. Il a en outre activé une rare procédure qui pourrait à terme conduire à des sanctions contre Budapest, ce qui n'impressionne guère le gouvernement, semble-t-il. Correspondance de Florence Labruyère.
Peter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Selon lui, le vote contre la Hongrie n'est qu'une petite vengeance des politiciens pro-immigration qui dominent le Parlement européen. Si la Hongrie a été sanctionnée, c'est parce qu'elle s'opposerait à ceux qui veulent ouvrir en grand les portes de l'Europe aux réfugiés. Pas un mot sur les atteintes à la démocratie en Hongrie, les pressions sur les médias, la justice et les ONG, constatées par les instances européennes. Le ministre n'a parlé que du péril migratoire. Une stratégie voulue par Viktor Orban. Car c'est grâce à une virulente campagne anti-migrants qu'Orban a remporté les législatives hongroises en avril dernier. Il pense que la même stratégie de communication lui permettra de gagner les élections européennes dans 8 mois. En tout cas, plusieurs ONG hongroises ont salué le vote au Parlement européen. Pour le comité Helsinki, la décision des eurodéputés permettra de protéger les droits des citoyens hongrois. Et c'est un signal clair à tous les gouvernements qui veulent affaiblir la démocratie.
Jean-Paul Marie, ces migrants que vous avez vus sur l'Aquarius sont en train de diviser profondément l'Europe.
Ah mais ils font plus que diviser l'Europe, c'est l'Europe qui se divise elle-même. Il y a 2-3 ans, quand on a commencé à travailler sur les migrants, et quand les ONG ont commencé à sauver des migrants...
Je recommande d'ailleurs le film que vous avez tourné, hein, sur ce reportage que vous avez fait à bord de l'Aquarius, qui doit être diffusé bientôt à la télévision,
oui,
je crois.
Oui. Les migrants ne savent pas nager. On disait, l'Europe n'a pas de discours sur les migrants. Comme elle n'a pas de discours, elle n'a pas d'action commune. Comme elle n'a pas de discours commun, elle n'a pas d'action commune. Et ça risque d'être une faillite historique de l'Europe. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que, malheureusement, les prédictions se sont avérées exactes, puisque l'Europe est totalement divisée, notamment sur le problème des migrants. On a laissé l'Italie, on pourra en parler si vous voulez, dans un état critique, qui fait qu'aujourd'hui, on a une Italie qui change, dont le visage change. On a des gens comme Orban, etc., etc. Et en fait, l'Europe est en train de se fragmenter, notamment à cause des migrants, parce qu'on n'a pas su faire. On n'a pas su parler, on n'a pas su prendre une action commune, quelle qu'elle soit. Ensemble. Et donc, chacun fait ce qu'il veut. Et la Hongrie étant un exemple un peu caricatural, mais vrai.
Alors partons pour Troyes, enfin ce qui fut Troyes, puisque votre voyage est le voyage du retour d'Ulysse à Ithaque, donc après la guerre de Troyes, dont il subsiste encore aujourd'hui des traces.
Ah, plus que ça. En fait,
grâce à Monsieur Schliemann.
Grâce à Monsieur Heinrich Schliemann. Mais Troyes, quand on parle de Troyes, dans l'inconscient ou dans le conscient, on se demande toujours si ça existe. Est-ce que Troyes existe, oui, finalement? Est-ce que c'est une ville mythique ou quelque chose? Et alors, la première découverte, pour beaucoup, c'est de dire, mais oui, Troyes existe. Et c'est un site historique. Et en fait, il n'y a pas une Troyes, il y en a 9.
Plusieurs strates.
Plusieurs strates, parce que chaque ville, chaque Troyes, si j'ose dire, a été détruite, brûlée, envahie, détruite par un tremblement de terre, incendiée, peut-être par les Achéens, l'Ulysse. Et donc, chaque strate, chaque ville s'effondre et on reconstruit. Et du coup, on a une ville on a un site historique qui c'est un peu comme le phénix, mais la hauteur des cendres est de 32 mètres. Et on a différentes couches dans lesquelles on trouve des traces à chaque fois d'une civilisation.
Troyes qui est aujourd'hui en Turquie.
Troyes qui est en Turquie et qui est... Et c'est ça qui est fascinant. La première découverte, c'est pas que Troyes soit en Turquie, c'est que Troyes se trouve sur quasiment au même endroit que le détroit des Dardanelles, c'est sur le détroit. Et alors, en fait, Troyes, rappelons l'Iliade, hein, c'est les Achéens, les Grecs qui vont attaquer la ville de Troyes, l'Oriental.
Parce que Paris, c'est en Hélène.
Oui. Et donc, on a une ville qui est attaquée, qui est brûlée par les Grecs. Il y a une guerre avec une rupture entre deux mondes, etc.
Une guerre qui a duré 10 ans.
La bataille des Dardanelles ensuite. Mais ça se passe exactement au même endroit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez Troyes, c'est exactement à l'endroit où l'Europe et l'Asie sont toujours coupées en deux, où l'Europe politique s'arrête, où la Turquie et la Grèce s'affrontent toujours. Et on a, depuis maintenant plus de 3000 ans, exactement au même endroit, entre la chrétienté et l'islam, on a exactement au même endroit une ligne de fracture qui est exactement celle que décrit Homère. C'est-à-dire qu'en finalement, l'Antiquité, c'est ça qui est incroyable, nous imprègne de quelque chose qui fait durer les choses d'une façon incroyable. Nous avons aujourd'hui deux blocs qui sont exactement les mêmes. Et en 1915, quand il y a eu la bataille des Dardanelles, là aussi, des alliés sont venus attaquer la Turquie. Et le combat s'est déroulé à une trentaine de kilomètres de Troie sur l'autre rive de ce détroit des Dardanelles.
Turquie qui est toujours au cœur de l'actualité.
Turquie qui est plus que jamais au cœur de l'actualité. Alors, moi j'aurais aimé...
Pour l'Europe, pour la Syrie, pour de multiples raisons.
Voilà, moi j'aurais aimé une Turquie pacifique qui m'aurait permis de sortir un peu de la guerre, mais le premier chapitre s'appelle La fureur de la guerre, et c'est le premier chapitre, c'est l'Iliade, quoi, finalement. Hein. C'est, on part de Troie, et Troie en Turquie aujourd'hui, ben, c'est un pays qui est dur, c'est un pays qui est nationaliste, c'est un pays, etc. Enfin, on va pas raconter la Turquie d'Erdogan. Il n'empêche que on a, et il y a une récupération des choses. Par exemple, la Turquie ne veut pas entendre parler de l'Iliade ou de l'Odyssée. L'Odyssée qui est quelque chose de, ça appartient aux Grecs. Ce qu'ils veulent, c'est commencer par exemple, la bataille des Dardanelles ou l'arrivée du prophète, parce que on est dans la construction d'un nationalisme exacerbé, sévère, et qui ne veut pas entendre parler de cette grande ouverture. Donc, le passé, quel qu'il soit, est utilisé, récupéré par un spécialiste en récupération comme Erdogan, qui lui veut que ce soit le début d'une Turquie nationaliste, musulmane.
La renaissance de l'Empire ottoman, peut-être.
La renaissance, etc., etc. Et il fait encore célébrer chaque année la prise de Constantinople, quand même, faut le faire. Bon. Ouais. Donc, si vous voulez, on a une Turquie qui répond un peu exactement à ce que décrit le corpus homérique, l'Antiquité. Hein. C'est une Turquie qui est coupée, voilà, qui est face à l'autre versant. Donc c'est assez stupéfiant d'avoir de pouvoir lire la Turquie d'aujourd'hui à travers le texte grec.
Une semaine d'actualité.
Parlons du climat de la planète maintenant, Jean-Paul. Autre préoccupation majeure aujourd'hui, un sommet sur le climat s'est tenu ces jours-ci en Californie, à San Francisco. Écoutons notre correspondant Eric Desalves.
À la tribune, des maires de grandes villes internationales ouvrent les débats du sommet pour l'action climatique de San Francisco. Malgré le départ des États-Unis, ces villes veulent encore croire à l'accord de Paris sur le climat et pensent que l'échelon local peut compenser l'inaction gouvernementale. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, en est convaincu.
Les gouvernements locaux assurent le leadership que notre gouvernement national refuse de prendre. Ce n'est pas un problème, car c'est dans les villes que se déroule l'action. Quand le président Trump dit qu'il sort de l'accord de Paris, nous répondons tous que nous y restons et nous représentons le peuple américain, l'économie américaine, les universités américaines. Tous vivent dans des communautés locales qui subissent directement les effets du changement climatique, avec les inondations, les incendies, les sécheresses. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de ne pas résoudre ce problème que nous avons créé. Et je suis fier d'être parmi les maires qui tentent de le résoudre.
Au lendemain du retrait américain de l'accord de Paris, l'an dernier, une coalition de 3000 entités, villes et États américains engagés à poursuivre la réduction de gaz carbonique s'est formée sous le nom d'America's Pledge. Selon son rapport diffusé cette semaine, les efforts locaux pourraient permettre d'atteindre jusqu'à 2/3 de l'engagement américain signé à Paris.
Avant de retrouver Ulysse, la Grèce et Jean-Paul Marie, parlons de la Syrie et la perspective de l'offensive contre Idlib. Nous en parlions samedi dernier alors que la rencontre de Téhéran venait d'échouer à Beyrouth. Paul Khalife a fait un point jeudi notamment.
Pour la troisième journée consécutive, les avions russes et syriens n'ont pas mené de raid ce jeudi contre la province d'Idlib, contrôlée en grande partie par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Cette accalmie est mise à profit pour tenter de trouver une solution négociée entre la Turquie, l'Iran et la Russie, afin d'éviter une vaste offensive de l'armée syrienne contre ce dernier bastion rebelle et djihadiste au nord-ouest de la Syrie. Ce répit relatif dans les airs n'a pas empêché la poursuite des pilonnages à l'artillerie. Ce jeudi, l'armée syrienne a lancé une violente attaque au sol contre des positions rebelles et djihadistes sur le front entre les provinces de Hama et Idlib. Les forces dites du Tigre, le surnom donné au célèbre général Souhayl al-Hassan, ont donné l'assaut contre des fortifications rebelles et djihadistes dans plusieurs localités au sud d'Idlib. Les combats ont été précédés par des tirs d'obus de gros calibre et de roquettes, selon des sources militaires syriennes et indépendantes. Des experts ici à Beyrouth affirment qu'il ne s'agit pas encore de l'offensive générale, mais seulement d'opérations préliminaires. Ces combats ont malgré tout fait des morts dans les deux camps, dont un célèbre chef djihadiste Abu Omar al-Dimashqi, tué dans le village de Latamina au nord de Hama.
La situation est naturellement à suivre dans nos journaux. La guerre, toujours la guerre, ça n'a pas changé depuis Ulysse, depuis Achille, depuis Hector, Patrocle, etc.
Ça a changé un petit peu parce que jamais, voyez, quand Achille promène, tire derrière son char le corps d'Hector, ça provoque un scandale, quoi. Ça soulève le cœur et l'âme de tous les gens qui sont là, les Grecs et les Troyens. Aujourd'hui, combien de personnes sont symboliquement tirées derrière des chars ou des voitures? Je veux dire, l'atrocité, la dureté, la barbarie est devenue un fait non pas accepté, mais qui est tellement courant qu'on a du mal à le relever. L'atrocité, la dureté de la guerre en Syrie, c'est quelque chose de très fort. Et je me rappelle aussi même à Beyrouth, à l'époque, il y avait des voitures américaines qui tiraient, enfin les chrétiens avec des voitures américaines, tiraient les corps des Palestiniens sur le pavé de Beyrouth. Ça rappelait quand même Hector et Achille, non?
Oui. La guerre d'ailleurs, qui est un sujet que vous avez beaucoup exploré, j'allais dire, avec votre métier, et aussi les conséquences, les ravages de la guerre dans l'esprit, avec les traumatismes des soldats, des victimes hein, de cette guerre.
Là, c'est quelque chose que j'ai découvert peu à peu, pour moi. J'ai découvert tout seul, mais pour moi, j'ai pas découvert pour les autres. Mais c'est l'ampleur, l'importance et la fréquence du traumatisme psychique de guerre. C'est-à-dire, non pas le stress hein, dont on parle et qui ne veut rien dire.
Chez toute victime hein, de la guerre. Hein,
pas chez toute victime, mais parce que c'est environ tout corps, tout homme plongé dans la guerre pendant longtemps, quoi. Guerre dure et pendant un certain temps, il y en a un sur quatre qui est traumatisé chez les vétérans d'Irak, d'Afghanistan, d'Algérie, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première. Ça n'a ni frein, ni dans le temps, ni limite dans géographique. Ceux qui ont rencontré la mort en face, non pas le cadavre sur le bord de la route, mais le néant de la mort en face, et qui sont vraiment traumatisés, ça, j'ai exploré cette chose-là que nous ne connaissions pas et qui était tabou. On ne parlait pas de ça, on ne voulait pas en entendre parler. Et comme les victimes ne veulent pas ou n'arrivent pas à en parler, n'arrivent pas à mettre des mots sur les images de l'horreur, ça tournait en rond, quoi. Alors maintenant, on commence à vraiment s'intéresser au néant, au tabou, au trauma. Mais jusqu'alors, c'était quelque chose d'indicible, d'inaudible.
Vous voulez dire un mot sur la conférence sur le climat, enfin une conférence informelle aux États-Unis,
oui,
rebelles américains.
Quand j'entends parler du réchauffement climatique, ça me rappelle Ulysse, parce que on disait qu'à l'époque le monde sortait d'une période caniculaire, et donc quand Ulysse prenait la mer, il dit et nous reprenons, alors toujours l'âme triste, hein, parce que nous reprenons la mer vineuse. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a du pinard dans l'eau, mais ça veut dire que la mer est rouge. Et pourquoi est-ce qu'elle est rouge? Elle est rouge parce qu'il fait tellement chaud que le chêne remonte jusqu'en Normandie et que la mer est couverte d'une algue microscopique qui est rouge et qui recouvre toute la mer. Donc leur galère fendait non pas les vagues, l'eau, mais fendait parfois, souvent, des étendues d'algues rouges comme ça qui étaient là à cause de la chaleur. La mer rouge porte ce nom aussi pour ça. Et donc on se dit, tiens, à l'époque il faisait déjà très chaud.
Et le climat, d'ailleurs, est très présent dans ce voyage, dans cette dérive avec Ulysse, pour paraphraser votre titre, Jean-Paul Marie, parce qu'entre les tempêtes, les vagues énormes, le vent violent, la Méditerranée n'est pas la Méditerranée que certains s'imaginent.
La Méditerranée est physique. C'est par exemple à Tchanakale, c'est-à-dire la ville sur le détroit des Dardanelles, juste à côté de Troyes, hein, 20 km de Troyes, il y a un vent extraordinairement fort et qui vient toujours de la même direction, c'est-à-dire du nord-nord-ouest, nord-nord-est, et qui est tellement fort qu'il empêchait les bateaux de remonter les Dardanelles. Et donc, Ces bateaux ne pouvant pas, il est établi, il est constant. Moi, je me suis fait plaquer au mur en sortant de mon hôtel par une rafale. Et il est tellement fort que ces bateaux ne peuvent pas remonter. Donc, on est obligé de s'arrêter au début du détroit de Dardanelles, de sortir, de décharger les marchandises et de les faire monter par convoi. Et donc, ces bateaux qui s'arrêtaient à cet endroit-là, à Tchanakale ou à Troyes, et qui faisaient escale, devait payer impôts. Et donc, c'est comme ça que Troyes est devenu riche. Et c'est le vent qui a fait la puissance de Troyes.
Il faut préciser, Jean-Paul Marie, que les Dardanelles constituent une région stratégique. C'est le passage obligé des Russes pour aller en Méditerranée.
C'est le passage.
De la mer Noire à la Méditerranée.
Et des pétroliers qui
grimpent.
C'est
un endroit plus que jamais stratégique.
Ah oui. Quand vous êtes sur le bord à Tchanakale, vous regardez le détroit, il passe un porte-container ou un tanker, un énorme tanker, mais toutes les 2-3 minutes, et dans un sens ou dans l'autre. Et donc, en plus, il faut qu'ils fassent très attention parce que c'est pas très profond, parfois c'est pas très large. Il y a un moment donné où la largeur minimum c'est 1 km, c'est rien.
Donc un chenal étroit.
Le chenal étroit. Ouais. Et vous voyez passer comme ça des défilés, des rails de bateaux qui passent dans un sens et dans l'autre, qui relient la Méditerranée à la mer de Marmara, donc à la mer Noire, à la Russie, etc.
Votre voyage est passé évidemment par la Grèce, vous êtes passé par la Grèce, bien évidemment, avec un tel sujet. Il faut lire votre livre pour bien comprendre votre démarche. La Grèce qui se remet à peine des conséquences de la crise de 2008.
Ouais, elle s'en remet pas encore. Non. On va dire la Grèce, elle est anesthésiée, elle est sidérée.
Vous faites quelques portraits qui sont sidérants, oui, pour bien comprendre, qui nous permettent de comprendre ce qu'est la situation.
Oui, les Grecs ont été complètement sinistrés par ce qui s'est passé. Mais pas seulement fait économiquement, parce que l'économie, aujourd'hui, être un retraité en Grèce, c'est une chose affreuse. Alors, on arrête le côté drastique et on va recommencer un peu de croissance. Mais ce qui a été terrible en Grèce, c'est que les gens ont cru à quelque chose. C'est-à-dire avec Tsipras, ils ont cru que Tsipras, qui disait non haut et fort, allait, après le référendum, être leur héros AUT et
OS. Donc il a fait un référendum sur les mesures d'austérité, tout le monde a répondu non, il y a eu austérité quand même.
Voilà, c'est-à-dire qu'il fait un référendum pour dire vous êtes contre ou pour les mesures qu'on veut nous imposer, tout le monde dit non, lui il porte cette parole, et quand le référendum est fini, et que l'Europe dit c'est comme ça, il dit bah écoutez, on va faire exactement le contraire de ce qui s'est passé. Du coup, il s'est passé une espèce d'immense dépression en Grèce, qui fait qu'il y a environ 500 000 jeunes diplômés qui ont quitté la Grèce pour l'exil. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que j'ai parlé avec un poète et de cette situation, il m'a dit, mais vous savez, parce que Ulysse, finalement, il quitte la Grèce et donc il part en exil, et puis ensuite il fait un immense détour avant le retour final à Ithaque.
Un long détour,
d'une petite dizaine d'années, mais 10 ans de guerre plus 10 ans d'Odyssée, mais il a cette immense nostalgie, le nostos de son île, de la Grèce. Mais les Grecs aujourd'hui, m'a dit le poète, regardez, c'est toujours pareil. Ils partent en exil, ils vont faire un immense détour et ils auront la nostalgie du retour en Grèce. Nostos, Ulysse, c'est toujours la Grèce aujourd'hui.
Semaine d'actualité.
Et parlons maintenant quelques minutes de l'actualité française, Jean-Paul Marie, avant de revenir sur le pardon d'Emmanuel Macron et donc de la France à Maurice Audin, assassiné en Algérie par des militaires français pendant la guerre de l'indépendance. Revenons d'abord sur le plan pauvreté présenté jeudi par le président français, un plan que nous détaille Anna Piekarek.
La prévention de la pauvreté et l'accompagnement vers l'emploi. Voilà les deux principaux volets de la stratégie qui compte au total 21 mesures. L'une d'elles prévoit la création de 30 000 places de crèche dans les quartiers défavorisés. L'égalité des chances se joue dès les premiers mots de l'enfant. Martel Olivier Noblecourt, la cheville ouvrière du plan pauvreté.
Nous savons aujourd'hui que les écarts de compétences, notamment langagières, se construisent dès la toute petite enfance. À 6 ans, en entrant en CP, un enfant de milieu défavorisé maîtrise 1000 mots de moins qu'un enfant de milieu favorisé. Ça, ça peut se régler à condition que les enfants les plus fragiles socialement puissent accéder aux différents modes d'accueil dès le plus jeune âge.
Le plan de lutte contre la pauvreté se donne aussi pour ambition de simplifier le maquis des prestations sociales. D'ici 2020, elles seront fusionnées dans un seul revenu universel d'activité. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Le seul objectif de ce revenu universel d'activité, c'est de simplifier la vie des gens. Personne ne choisit délibérément d'avoir accès aux minima sociaux. Quand on rencontre les personnes concernées, elles veulent toutes avoir accès aux droits simplifiés pour pouvoir justement s'investir dans la formation et vers la recherche d'un emploi.
Pour financer les mesures du plan qui sera mis en place à partir du 1er janvier, l'État a prévu 8 milliards d'euros.
Parlons maintenant politique au sens étroit du mot, Jean-Paul Marie. Avec l'élection sans gloire de Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale, Julien Chavannes.
Petite majorité. Petite majorité, crie l'opposition pendant que le nouveau président de l'Assemblée s'installe à son pupitre. Avec 254 voix, Richard Ferrand ne fait pas le plein parmi ses troupes. Les 311 députés marcheurs n'ont pas tous voté pour lui. Certains ont même préféré le candidat du Modem. Une sorte d'avertissement. D'ailleurs, les bancs de la majorité sont clairsemés quand il prend la parole. Ému, Richard Ferrand joue l'humilité.
J'ai parfaitement conscience que mon élection est plus le fruit de réalité politique majoritaire que l'issue d'une compétition de talents.
À 56 ans, ce proche d'Emmanuel Macron, ancien journaliste et chef d'entreprise, devient le quatrième personnage de l'État. Jugé autoritaire par une partie de son camp, critiqué par l'opposition, Richard Ferrand promet de respecter la parole de chacun.
Ne doutez pas de mon estime personnelle et de ma détermination à faire vivre les expressions démocratiques dans cet hémicycle.
Sans gloire, Richard Ferrand s'installe au perchoir et il n'est pas prêt à le lâcher. Toujours menacé par la justice, il laisse entendre qu'il ne démissionnera pas en cas de mise en examen pour conflit d'intérêts.
Sept jours en France.
Le pardon à Maurice Audin, maintenant Jean-Paul Marie. Emmanuel Macron a donc reconnu jeudi que la France avait mis en place un système entraînant des actes de torture, je le cite, pendant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Un geste important qui devrait faciliter le travail des historiens sur un conflit qui est à la source, vous le savez, de nombreuses blessures non encore refermées dans la société française. Écoutez par exemple ce que disait jeudi Benjamin Stora, l'historien spécialiste de l'Algérie, qui était d'ailleurs l'invité de cette émission. En août avec Chantal Laureau.
C'est un système d'État qui est dénoncé. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est dénoncé. Alors maintenant, ça doit encourager à aller plus loin sur tout autre dossier. Il y a tous les disparus, français et européens, bien entendu. Il y a toute une série de dossiers historiques qui restent ouverts, des chantiers tout à fait ouverts. Mais plus on avance dans la connaissance, plus on combat le déni. Et plus on sort, pour reprendre l'expression que vient d'utiliser Emmanuel Macron, qu'on sort de la conspiration de l'oubli. Alors malgré les cris, malgré ceux qui ne sont pas d'accord, la vérité des faits doit s'imposer pour tous les disparus. Il y a effectivement la question des archives qui ont fonctionné jusqu'à présent par dérogation pour les historiens, par moment, par séquence, par personnage, etc. Là, c'est ce que veut le président de la République, c'est une levée générale des archives sur la guerre d'Algérie. Ça, c'est nouveau.
Alors comment a-t-on réagi en Algérie quelques heures après cette décision? Écoutez ce que nous disait hier Laïla Berato à Alger.
Pour le ministre des Anciens Combattants, Tayeb Zitouni, c'est la preuve qu'il y aura davantage de reconnaissance des crimes commis pendant la colonisation. Hakim Haddad est un militant qui travaille pour le rapprochement entre l'Algérie et la France, et pour lui, c'est aussi un premier pas.
Enfin, justice est faite pour Maurice Audin. On ne peut que s'en réjouir. La reconnaissance ouvre aussi pour nous la possibilité de continuer à demander la vérité et la justice sur d'autres disparus, qu'ils soient français ou qu'ils soient algériens.
Dans le centre de la capitale, aujourd'hui, la place Audin est un lieu de rendez-vous. Sur un mur, une plaque rend hommage aux mathématiciens militants communistes arrêtés par les parachutistes puis torturés. Ici, les histoires de torture de l'armée française, on en a entendu beaucoup. Et pour Hakim Haddad, il était important que la France en reconnaisse l'usage systématique.
Il reconnaît ouvertement la pratique de la torture par l'armée française et ses parachutistes, entre autres, pendant la guerre d'indépendance en Algérie. C'est bien pour les deux pays. c'est dire des vérités qui étaient enfouies.
Après la déclaration d'Emmanuel Macron, un site internet devrait permettre aux familles algériennes d'avoir accès aux archives sur leurs proches qui ont disparu pendant la guerre.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Marie qui vient d'écrire En dérivant avec Ulysse, un formidable récit de voyage, un récit entre l'histoire et le présent, publié chez Jean-Claude Lattès. L'Algérie est un pays que vous connaissez, Jean-Paul Marie. Comment réagissez-vous après cette décision d'Emmanuel Macron prise jeudi ?
On a envie de simplement dire qu'il était temps, hein. Il était temps, ne serait-ce que pour la veuve de Maurice Houdin, mais il est temps de... Vous savez, le conflit algérien est un monument du tabou.
Depuis 1962, il y a toujours le couvercle, en fait.
Il y a toujours le couvercle, mais vous savez, c'est un double tabou. C'est un tabou français, mais c'est aussi un tabou algérien.
Bien sûr.
C'est-à-dire que sans renvoyer les deux pays dos à dos. Par exemple, j'ai travaillé sur un sujet dont j'ai fait un film qui s'appelle La Bleuite, qui est une opération d'intoxication, de désinformation et de manipulation qui a été faite par les services secrets militaires français contre le FN algérien, qui aboutit à une purge interne du côté des maquis algériens, qui a été absolument abominable. Ça a fait des milliers de victimes, autant, peut-être plus, que la bataille d'Alger, dont personne ne parle, ni les Français, ni les Algériens. Donc, si vous voulez, on est dans une... Chaque fois qu'on parle de quelque chose, on dit « Ah, enfin, le tabou se lève !» Non, le tabou, il continue. Et c'est ce double tabou qui pèse à la fois sur les relations franco-algériennes, mais aussi sur les Algériens eux-mêmes. Il faut que les Algériens creusent leur histoire et en sortent tout ce qui est tabou. Et c'est quelque chose... L'Algérie a tué, pas seulement des gens pendant la guerre, évidemment, mais ensuite, après, des soldats, des anciens soldats français, qui sont morts avec ce sentiment effroyable de ne pas avoir pu parler de ce qu'ils avaient vécu. Donc le tabou, c'est l'Algérie, c'est un monument du tabou, et tout ce qui peut faire tomber le tabou est quelque chose de salvateur.
La Méditerranée, vous l'avez vue, admirée, contemplée du continent africain aussi. Vous l'avez regardée, je sais pas, à partir de la Libye et du Maghreb en général.
D'abord, je suis né à côté d'Alger, donc à la banlieue d'Alger, donc j'ai
dès l'enfance.
Oui, l'Algérie, enfin la Méditerranée, pour moi, au départ, c'est quelque chose, c'est une espèce de petit paradis où on chasse le poulpe dans les rochers, où on se baigne, on est baigné de lumière, de sel, on est croûté de sel, on a cette chaleur qui vous imprègne, c'est mon aquarium. La Méditerranée est mon aquarium, et quand j'y vais, je reconnais même la nuance du bleu qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu cette rupture extrêmement brutale des années 62, et tout d'un coup, on a coupé le ciel de la Méditerranée en deux. Et ensuite, avec mes reportages, avec mes déplacements, mes voyages, les conflits, Liban, Syrie, j'en passe, j'ai découvert une Méditerranée qui était différente, qui pouvait tuer, qui pouvait être noire, qui brûlait, qui était en feu, qui était une Méditerranée de la haine, de la violence, du massacre. Et c'est cette dichotomie entre les deux Méditerranées et qui m'a amené à m'interroger sur ce qu'est exactement. Et finalement, ce qu'est la Méditerranée, c'est aussi ce que nous en faisons, nous. La Méditerranée, elle n'est ni cruelle, ni méchante, ni bienveillante. Elle est ce que nous en faisons.
C'est là, dans cette région de la Méditerranée, donc au nord de l'Afrique, du continent africain, que Ulysse a rencontré les lotophages.
Ah, les lotophages.
Il faut rappeler qui étaient les lotophages.
Alors oui, parce qu'en fait, les lotophages, c'est un peuple qui vivait dans l'Odyssée, qui vivait sur la côte libyque, c'est-à-dire grosso modo la Tunisie, et qui vivait parfaitement heureux. Alors aujourd'hui, il fumerait du shit du matin au soir, mais à l'époque, c'était le loto, c'est-à-dire le fruit du loto, c'est une espèce de date qui suffisait d'en consommer pour être béat et heureux. Et donc Ulysse arrive, après cette longue dérive de la Grèce, où le vent du Borée l'a poussé vers la côte libyque, il arrive là, il a besoin de faire escale, et comme il ne connaît pas la région, il envoie une équipe, une ambassade, parler au gouvernement du coin. Et puis cette ambassade ne revient pas. Alors au bout d'un moment, il en a assez, il prend ses armes, son bouclier de bronze, sa dague, et puis deux ou trois combattants, il va voir ce qui se passe. Et il trouve son ambassade béate, assis par terre, avec les yeux au ciel. Et ce qui se passe, c'est que on leur a donné le fruit du lotus. Et lui, il le refuse. Alors, et c'est là où ça devient passionnant. Pourquoi est-ce qu'il refuse l'auto, ce qui peut lui faire tout oublier? On lui dit, oublie tout, vieux guerrier. Oui, mange ça, tu seras heureux. Et tu n'auras plus ce désir du retour et cette mémoire de la souffrance du passé. Il refuse parce que c'est la tentation de l'amnésie. Et il ne veut pas oublié parce qu'il a un destin à accomplir. Et ce destin, il veut l'accomplir. Et donc, il va refuser l'amnésie. Et du coup, ça m'a amené à travailler sur qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que notre mémoire et à quoi elle nous sert. Et en travaillant sur la mémoire, j'ai découvert que dans la région, il y a quelque temps de cela, il y avait un monsieur qui s'appelait Saint-Augustin, qui dans les Confessions a écrit 7 chapitres sur qu'est-ce que la mémoire. Et entre eux, les neurosciences d'aujourd'hui sur la découverte des mémoires et ce qu'avait analysé tellement finement Saint-Augustin, les lotophages m'ont permis de travailler sur cette mémoire d'avant et d'aujourd'hui.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Un petit salut à des auditeurs qui nous ont fait signe à la page Une Semaine d'Actu de Facebook ces derniers jours. Bonjour par exemple à Elias à Cotonou, à Oumar Abdoulaye à Lomé. Bonjour à Elamine à Dakar, à Limou à Conakry, Roger à Kisangani et Denis qui est un fidèle auditeur à Longueuil au Québec.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, Jean-Paul Marie, avec une bonne nouvelle. Enfin, on voudrait y croire. La signature d'un accord de paix au Soudan du Sud. Il a été signé mercredi à Addis Abeba. Correspondance de Vincent Dublange.
Le dernier signataire vient de reposer le stylo. Certains exultent dans la salle de conférence de l'ONU. Marie Akesh Bior préside le bloc des femmes du Soudan du Sud. Elle croit en ce texte.
Vous avez vu comme le peuple sud-soudanais et ses amis sont heureux? Tout ira bien après ça.
Un peu plus tôt à la tribune, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed évoquait sa satisfaction.
En intervenant la même année que l'accord de paix Érythrée-Éthiopie, cet accord démontre la capacité de l'Afrique à surmonter ses propres conflits et à prendre soin de cette bénédiction qu'est la paix.
Un sentiment partagé par l'ancien chef d'État botswanais Festus Mogae qui dirigeait le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu signé en décembre dernier.
Je suis fier de tous ces défis que nous avons relevés collectivement depuis 2 ans et 8 mois.
Mais on a senti une petite dose d'inquiétude chez l'envoyé britannique qui représente la Troïka, États-Unis, Norvège, Royaume-Uni. Chris Trott.
Des opérations militaires ont eu lieu depuis la signature du cessez-le-feu le plus récent. L'accès humanitaire continue d'être empêché physiquement et bureaucratiquement.
L'accord signé ce mercredi prévoit notamment une période de transition de 3 ans avant des élections.
Quelques jours avant, Jean-Paul, l'Éthiopie et l'Érythrée avaient à nouveau donné des signes de détente en rouvrant des postes frontières entre les deux pays. Nairobi lundi, Sébastien Demet.
Souhaitant une fois encore montrer leur unité, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afewerki ont dirigé ensemble les cérémonies officielles. Ils ont rouvert 2 postes frontières, celui reliant Debaïsima et Bur et celui plus au nord entre Séra et Zalambessa. Habillés en tenue militaire, ils ont marché le long des routes reliant leur pays dans une ambiance de fête. Les voies étaient bordées de drapeaux nationaux, tandis que soldats et habitants des deux territoires célébraient la réconciliation. Un moment d'autant plus fort qu'hier, c'était aussi le nouvel an orthodoxe pour les Éthiopiens et les Érythréens. Pour l'occasion, des familles séparées depuis plus de 20 ans par la guerre ont célébré leurs retrouvailles. Des mères, frères, oncles, amis sont tombés en larmes dans les bras les uns des autres. Des soldats des deux camps, officiellement en guerre il y a encore quelques mois, ont également fraternisé. La tragédie de notre histoire récente touche à sa fin, a déclaré Fitsou Marega, directeur de cabinet du premier ministre éthiopien. Les deux sites n'ont pas été choisis par hasard. La ville éthiopienne de Zalambessa avait été occupée par l'Érythrée et quasiment détruite pendant la guerre. Quant à la région de Bur, plus au sud, sa route stratégique relie Addis Abeba au port érythréen d'Assab, offrant ainsi un débouché vers la mer à l'Éthiopie.
Alors, j'ai voulu que l'on parle de ces deux événements, Jean-Paul Marie, parce que cette région du monde, le Soudan du Sud singulièrement, l'Érythrée aussi, ont fourni un contingent important d'immigrants, de migrants jusqu'à ce jour.
Fournissent toujours. Les Sud-Soudanais font partie de font partie du lot des migrants, quoi. Et les Érythréens aussi, avec Safe Worki qui continue, voilà, qui est un tyran méconnu dans cette corne de l'Afrique. Oui, oui, ça continue. Et les migrants sont le témoignage, la concrétisation de tout ce qui se passe et qu'on ne veut pas voir.
Avec au cœur de cette crise des migrants, crise pour ne pas parler d'un autre mot, la Libye.
Oui, la Libye, auquel on pourrait consacrer quelques émissions. C'est un pays hors du monde. C'est un pays d'enfer pour les migrants. D'où les atrocités, les camps de torture. C'est tellement chaque migrant qui vous raconte son histoire a une épopée, et cette épopée est souvent un calvaire. Et tous ceux qui ont passé quelques semaines ou quelques mois dans des camps de torture libyens sont des gens profondément traumatisés qui reviennent de l'équivalent des camps de concentration.
Et ces migrants montrent à quel point l'Afrique souffre. En tout cas, certaines régions de l'Afrique souffrent et certains types de populations aussi.
Oui, c'est vraiment l'expression de l'Afrique, l'expression dolente de l'Afrique. Quand vous recevez des migrants à bord, ils vous parlent soit de Boko Haram, soit de la souffrance économique, soit de la dictature en Érythrée, soit de la guerre au Sud-Soudan, etc., soit de ce qui se passe en Afghanistan. Donc écouter, étudier et entendre ce que disent les migrants, oui, c'est savoir, c'est plus que prendre le pouls de l'Afrique, c'est faire une IRM de l'Afrique.
Oui. Ce voyage en Méditerranée que vous avez fait sur les traces d'Ulysse vous a changé?
On ne finit pas une enquête comme on l'a commencé. Jamais. Hein, jamais.
Est-ce qu'il y a beaucoup de psychologie, de philosophie dans votre livre?
Ben, on essaie de réfléchir à ce qu'on voit, mais il y a des choses quand même assez étonnantes. Moi, c'est ce qui m'a sidéré, mais ça, c'est pas une découverte, c'est la richesse du texte d'Homère. C'est incroyable. L'élotophage dont on vient de parler, c'est 12 vers dans Homère. 12 vers, c'est rien du tout. Il sait écrire concile, monsieur. C'est la richesse. On découvre, il y a des lectures. Il n'y a pas une lecture du mythe. Il y en a plusieurs. Et chaque lecture apporte une richesse incroyable. Par exemple, quand on parle de la Sicile, par exemple, ou des îles éoliennes, on va à Stromboli. On découvre des gens qui sont des pêcheurs, donc on les rencontre, et on parle de ces pêcheurs, on pourra raconter l'histoire de Mario, les pêcheurs, etc. Et quand ils vous racontent ce qu'ils vivent, etc., peu à peu, ce qu'ils vous racontent vous met directement en relation avec tous les dieux grecs, avec tous les dieux.
Et Dieu sait s'il y en a.
Et Dieu sait s'il y en a. Par exemple, on découvre que nous ne sommes, nous, les Méditerranéens, ni des chrétiens, ni des grecs anciens, mais des païens baptisés.
Et partons pour le Ghana cette fois, pays natal de Kofi Annan, qui a rendu hommage, le Ghana, cette semaine, à l'ancien secrétaire général disparu au mois d'août. Les obsèques ont eu lieu jeudi, mais la veille, c'est le monde diplomatique, les corps constitués, comme on dit, qui l'ont célébré à Accra mercredi, reportage de Justine Boulot.
Députés, ministres, ambassadeurs se sont succédés au centre de conférence d'Accra hier pour un dernier au revoir à l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Rassa Machel, veuve de Nelson Mandela, était présente pour célébrer la mémoire d'un grand homme.
On se souviendra de lui comme le secrétaire général des Nations Unies et je n'essaie pas d'être diplomate. Kofi était autant Ghanéen que Sud-Africain, Mozambicain ou Zambien. Il nous manquera profondément.
Mais Kofi Annan restera dans les mémoires des Ghanéens une fierté nationale, comme le confie Kwadwo Mpiani, directeur de cabinet de l'ancien président John Kufuor.
Il était le secrétaire général de l'ONU, mais a-t-il fait beaucoup pour le Ghana? La réponse est oui. Outre notre premier président, Kwame Nkrumah, c'est le Ghanéen qui a porté le nom du Ghana sur la scène internationale. Et cela nous suffit en tant que nation.
Les obsèques de Kofi Annan, donc, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Rappelons qu'il a été secrétaire général de l'ONU, pour être précis, de 1997 à 2006. Et ces obsèques privées ont eu lieu à Accra hier. Dernière étape cette semaine, Bangui, où a commencé la troisième phase de réduction des violences dans le cadre du programme CVR, en français Réduction des violences communautaires. Objectif, désarmer et former plus d'un millier de jeunes de 5 quartiers de la capitale centrafricaine. Écoutez ce reportage de Charlotte Cossé dans le 5e arrondissement.
J'ai déposé 2 grenades et 50 munitions.
Vous aviez ces armes chez vous?
Oui, c'est chez moi. Non. Comme il y a l'insécurité, ça nous permettait de nous protéger avec.
Et pourquoi aujourd'hui vous décidez de les déposer?
Parce qu'on veut la paix.
Un à un, les bénéficiaires du CVR sont venus déposer leurs armes et munitions.
Le but de cet projet, c'est réduction de la violence qu'on était, donc je suis obligé de déposer. Quand après ça, il y aura des formations donc, pour avoir un métier dans la vie et de travail.
Et vous espérez faire quoi comme métier?
Devenir électricien.
En tout, ce sont 24 grenades, plus de 800 cartouches de AK-47, mais aussi des armes artisanales, 3 MAS 36 ou encore des munitions de gros calibre qui ont été récoltées. Jean-Pierre Bettingy est le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres.
On le voit qu'il y a vraiment le besoin d'un travail de sensibilisation dans cet arrondissement pour que les gens comprennent qu'une arme n'est pas faite pour rester dans une maison. Les explosifs ne sont pas faits pour rester dans une maison familiale. C'est encourageant parce que pour tout début, vous savez, il y a toujours des réticences. Hein. On pense que le message va circuler dans les quartiers et on espère que dans les jours à venir, les remises seront plus importantes.
L'objectif principal, former ces jeunes à des métiers pratiques et les accompagner dans des activités génératrices de revenus, mais aussi en profiter pour récupérer un maximum d'armes qui circulent dans les quartiers et qui participent à l'insécurité et aux violences.
Une semaine d'actualité.
Il nous reste quasiment 2 minutes pour conclure, Jean-Paul Marie. Que dire de ce voyage? Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je ne sais plus quelle est la bonne.
c'est la question de se perdre comme ça dans un voyage
dans
un texte absolument magnifique. Parce qu'on dit que Homère est moderne. On parle de la modernité d'Homère. Homère n'est pas moderne. Il est permanent. C'est une permanence. Par exemple, Naples, grande ville. Naples,
Autre étape de votre voyage.
Oui, tous les écrivains ont parlé de cette relation particulière de Naples avec la mort. Et en fait, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit du fait que les champs phlégréiens, c'est-à-dire ces soufrières autour de Naples, étaient considérés par les Grecs et les Romains comme l'entrée de la porte des enfers, la porte des enfers. Et donc, cette relation de Naples avec la mort qui fait qu'aujourd'hui, et avant déjà, il y avait 40 000 crânes et ossements sous les églises, qui est un culte des Napolitains par rapport aux squelettes, aux morts, aux âmes du purgatoire, ça remonte à l'Antiquité. Et quand Ulysse descend aux enfers, il rencontre Achille. Et il lui dit, Achille, tu es Achille qui est mort, donc. Et il lui dit, tu es aussi brillant ici que quand tu l'étais sur terre, donc tu es notre héros. Et Achille lui dit, tata, Ulysse, ne me farde pas la vérité, mon noble Ulysse. J'aimerais mieux être valet de ferme chez un paysan qui n'aurait pas grand cher que de régner sur tous ces morts, sur ce royaume éteint. Qu'est-ce qu'il nous dit, Achille? Quelle que soit l'horreur de ce que nous vivons, eh bien, la lumière de la vie est plus belle que tout et la vie se joue pendant la vie. C'est la leçon d'Achille, c'est aussi la leçon de la Méditerranée.
Merci Jean-Paul Marie. Il faut lire votre livre qui s'intitule En dérivant avec Ulysse, livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Et je me permets de proposer aux auditeurs de réécouter notre numéro d'idées, enfin nos numéros d'idées avec Pierre Judet de la Combe, qui est le spécialiste de l'Iliade et l'Odyssée, avec lequel nous avons parlé dernièrement de la colère d'Achille, par exemple.
Chante.
Donc je recommande vivement votre livre En dérivant avec Ulysse. Merci Jean-Paul Marie.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Et je vous retrouve demain pour le magazine Idées, justement. Et demain, nous parlerons d'Hollywood, et plus précisément de la façon dont Hollywood voit le monde et l'histoire américaine dans ses films. La guerre, notamment, ça va vous intéresser, Jean-Paul. Nous serons en compagnie de Pierre Conessa, qui est un spécialiste de géopolitique et qui vient d'écrire un essai qui s'intitule Holy War. Idées demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.